Qui c'est, ce monsieur? Vous le savez, Josué, Axon, Eddie et d'autres, vous le savez, c'est le Negmaron, autrement dit le marron libre, autrement dit l'esclave qui a rompu ses chaînes. Là, il y a une chaîne qui pendouille à sa cheville. Il prend la machette, le coupe-coupe, je devrais dire, qu'il utilisait dans les champs de coton, ou pardon, les champs de bambou, de canne à sucre, voilà, j'y suis. Mais maintenant, il s'en sert pour se frayer un chemin dans la jungle, pour être vraiment libre. Et il voit à cette gourde qu'il a trouvée, il est quand même en position de course, je pense. Et c'est émouvant de penser qu'il y a des gens qui ont réussi, comme lui, à trouver la liberté. D'autres n'ont pas réussi. C'était un temps cruel, un temps difficile pour beaucoup, beaucoup de gens. Le Negmaron, je l'aime beaucoup. Il y a une semaine, vous le savez peut-être, c'était le 10 mai, nous avions, excusez-moi, la commémoration de l'esclavage. C'est quoi commémorer? C'est pas fêter. C'est se souvenir ensemble. C'est s'engager pour ne pas oublier et ne pas laisser nos enfants oublier. Nous ne sommes pas responsables des fautes ou des crimes de nos ancêtres, mais nous vivons dans un monde qui porte encore les traces de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont laissé faire. Nous ne changeons pas le passé, mais nous changeons le présent et l'avenir. Nous en avons eu la preuve ce matin, l'église d'Ozoir aime la musique gospel qui est née chez les descendants d'esclaves dans des églises noires américaines. L'abolition de l'esclavage a laissé intact dans le sud des États-Unis tout un système de discrimination et de ségrégation qui a maintenu les noirs dans la pauvreté et les a privés d'éducation. Merci. Ils ont fui vers le nord, mais ils sont restés pauvres dans le nord. L'ancêtre de la musique gospel, le négro spirituel, fait souvent référence à l'Ancien Testament. Les Israélites étaient, eux, esclaves en Égypte. Sous la conduite de Moïse, ils ont traversé la mer, le désert et le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et pour ceux qui mettent cela en musique, souvent a cappella, la terre promise n'était pas Chicago, c'était le ciel. Les souffrances du moment présent prendraient fin, les déshérités d'aujourd'hui seraient les vainqueurs de demain. Et ce thème, on l'entend aussi dans la musique gospel. Don't wait till the battle's over, shout now, you know in the end we're gonna win. N'attendez pas que la bataille soit terminée. Criez la victoire maintenant, parce que nous allons gagner. Donc voilà, au milieu du XXe siècle, la musique gospel introduit plus de chanteurs, des voix de femmes, plus d'instruments et plus de références au Nouveau Testament, d'où son nom, gospel. Gospel en anglais signifie évangile, et évangile à son tour signifie bonne nouvelle. Et l'accent principal des chants passe de la souffrance dans ce monde à la joie du salut en Christ. Alors de quel salut s'agit-il? Eh bien de la libération du péché et de la réconciliation avec Dieu. De quelle bonne nouvelle s'agit-il? Jésus-Christ est venu dans le monde sauver tous ceux qui vivent loin de Dieu. L'héritage de l'esclavage, la pauvreté, le besoin d'un sauveur, comment expliquer que cette musique née dans la souffrance soit tellement joyeuse? Comment expliquer son succès chez les Blancs et chez les gens qui n'ont pas beaucoup de soucis matériels? On explique avec ceci, tous ont besoin de sortir de leur condition actuelle, tous ont besoin de s'élever vers Dieu. La bonne nouvelle est pour tous. J'ai choisi donc pour titre ce matin « De l'esclavage à la fraternité » Et nous sommes dans une église où vous savez que tous les dimanches, on ouvre la Bible pour explorer son message. Mais avant de lire un passage ce matin, il faut que je vous dise un mot sur l'esclavage du temps des Grecs et des Romains. Du temps des Grecs et des Romains, grande civilisation à bien des égards, les esclaves étaient partout. La célèbre démocratie d'Athènes ne concernait qu'une petite minorité de la population. Les citoyens, eux, pouvaient s'occuper des arts, de la philosophie, de la politique, parce qu'ils ne travaillaient pas. Le travail, c'était pour les esclaves. Et les généraux romains ramenaient de leur conquête des centaines, des milliers d'esclaves pour les vendre. C'était l'un des buts de guerre, faire fortune en vendant des esclaves. Lors de la destruction de Jérusalem, en l'an 70, il n'y avait pas que des soldats campés autour de la ville, mais il y avait aussi un très grand nombre de marchands d'esclaves. C'était vraiment partout. Et en plus des esclaves, par fait de guerre, il y avait aussi tous ceux qui se sont vendus comme esclaves pour éponger leurs dettes. Chez les Romains, le statut des esclaves était très simple. C'était des outils animés. Vous cassez l'outil ? Ben vous le jetez. Votre esclave vieillit, il ne peut plus travailler, vous le vendez. Comme nous, on vendrait une voiture qui a un problème de joint de culasse. Un esclave meurt suite à des mauvais traitements, ben c'est votre argent, cela ne concerne pas la loi. Mais il faut aussi dire que si le statut des esclaves était impitoyable, leurs conditions réelles pouvaient être très variables. Dans les champs et surtout dans les mines, ils avaient une vie très très dure. Mais les esclaves domestiques pouvaient être comme des membres de la famille. Et il y avait des esclaves instruits qui exerçaient pour leur maître des professions nobles, instituteurs, architectes, comptables. Eh bien pensez, si vous ramenez d'une ville l'élite des gens instruits, vous n'allez pas les vendre à vil prix pour aller dans les champs. Vous allez en tirer un bien meilleur profit si vous les vendez comme architectes, chanteurs, musiciens. Très variable. Et donc, dans le Nouveau Testament, j'aimerais vous faire découvrir un épisode bouleversant qui concerne un maître et son esclave. Je ferai donc la lecture de l'épître de Paul à Philémon. Mais avant de faire la lecture, pour que vous puissiez bien en profiter, il faut que je vous présente les trois personnages qui figurent dans cette lettre. Il y a l'apôtre Paul, il y a un homme riche du nom de Philémon, et il y a un esclave en fuite, Onésime. Alors l'apôtre Paul d'abord. Ben, il n'est pas né apôtre. Il a été élevé dans une famille juive traditionnelle, et il s'appelait Saul. Nous dirions qu'il avait la double nationalité, puisqu'il était juif et en même temps citoyen romain. Et cette citoyenneté romaine lui donnait certains avantages. Lui donnait aussi un deuxième nom, le nom qui est le plus habituel pour nous, Paul, Paulus, si vous voulez parler latin. Il a été l'élève de l'un des plus grands rabbins de l'époque, Gamaliel, et quand les premiers disciples de Jésus commençaient à dire que Jésus se crucifiait, était le Messie, qu'il était ressuscité des morts. Et quand cette abominable hérésie commençait à se répandre, Saul a fait tout ce qu'il pouvait pour écraser le mouvement. Il y a eu des arrestations et il y a eu quelques exécutions. Saul était un vrai fondamentaliste. Et puis, un jour, en chemin pour arrêter les chrétiens de Damas, Saul a été arrêté lui-même par le Seigneur Jésus. Il a compris l'immensité de son erreur, il a prié, il s'est fait baptiser et il a entrepris d'annoncer partout la foi qu'il avait voulu détruire. C'était une conversion des plus spectaculaires. Et maintenant, 25 ans plus tard, au moment où il écrit cette lettre à Philémon, le voilà à son tour persécuté, emprisonné menacé de mort. Il a été transféré à Rome en attendant d'être jugé en appel par l'empereur. Avec des conditions d'emprisonnement, cette fois-là, assez souples, il pouvait recevoir des visites, écrire des lettres aux églises, envoyer ses représentants à droite et à gauche. Mais il était gardé nuit et jour par une escouade de soldats romains qui se relayaient. Et c'est dans cette prison relativement souple qu'il écrit au deuxième personnage de notre histoire. Celui-ci s'appelle Philémon. Il habitait Colosse, qui était une petite ville dans l'arrière-pays, derrière Éphèse, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, à l'intérieur des terres. Philémon était grec. L'apôtre Paul n'avait jamais mis les pieds à Colosse. Il a dû rencontrer Philémon à Éphèse et l'amener à la foi dans cette grande ville. Et maintenant, de retour chez lui, Philémon a annoncé l'évangile avec d'autres convertis. Ils ont fondé une église dans leur ville. Philémon avait une maison assez grande pour accueillir l'église tous les dimanches. Il était donc plutôt riche. Et comme tous les riches, il avait des esclaves. Ce qui nous amène au troisième personnage, Onésime, grec lui aussi, et à l'autre bout de l'échelle sociale que Paul et Philémon. Lui, c'était un esclave. Et pire encore, il était un esclave en fuite. Il est allé se cacher dans les bas-fonds de Rome, et là, on ne sait pas comment, il a rencontré l'apôtre Paul. Il s'est converti à Jésus-Christ. Il s'est rendu utile au service de Paul. Mais il n'y avait pas d'avenir pour un esclave en fuite. Tôt ou tard, il fallait qu'il régularise sa situation, comme on dit de nos jours. Onésime était l'esclave de Philémon. Et voici donc la lettre que Paul écrit à Philémon au sujet de cet esclave converti. Je vais le lire maintenant. Et d'abord, l'introduction de la lettre. Paul dit ceci. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Appia, notre sœur, Archip, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et envers tous les membres du peuple saint. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui font partie du peuple saint. Ça, ce sont des mots de présentation et d'introduction. Et maintenant, il en vient à faire une demande au sujet d'Onésime. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant qui je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il est utile à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison à cause de l'Évangile. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, mais même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait? Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il est tellement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur? Par solidarité envers moi, accueille-le comme il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je rembourserai ses dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour de Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente, et même, je le sais, tu feras encore plus que ce que je te demande. En même temps, prépare-moi une chambre, j'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Et puis la salutation finale, Epaphras qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Et ça, c'est donc la fin de la lettre. Tu feras encore plus que ce que je ne demande. Qu'est-ce que Philémon pourrait faire de plus? Peut-être accorder la liberté à son esclave qui revient. Voilà donc un moment où Paul écrit une lettre à toute l'église de Colosse, nous l'avons ici, et cette lettre très personnelle pour son ami Philémon. À l'époque, nous sommes vers l'an 62 après Jésus-Christ, à l'époque il n'y avait pas de service de poste, et ces lettres devaient être portées par un collaborateur de l'apôtre, elles seront portées par un nommé Tychique et par Onésime, l'esclave en fuite. Ils arrivent tous les deux à Colosse et Onésime va devoir affronter Philémon. Il s'expose à un châtiment sévère. Mais Philémon n'est plus un esclave en fuite. C'est un assistant de l'apôtre. C'est un frère en Christ. Et il va trouver son maître, ce maître qu'il a peut-être volé. Et le dimanche, il va se trouver aux côtés de l'autre collaborateur de l'apôtre, Tychique, dans l'assemblée de l'Église, tous ensemble dans la même réunion de l'Église, autour de la même table. Mais vous voyez la tête des gens. Le vendredi, Onésime récure les toilettes, et le dimanche, il partage le pain et le vin avec un homme qui avait le droit de le fouetter à mort. Et ce dimanche-là, quand on lira l'Épître aux Colossiens, ils entendront vers la fin cette phrase, « Maître, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. » Quoi? Traitez les esclaves avec justice et d'une manière équitable, mais ils n'ont aucun droit. Ce sont des outils animés, et quand ils sont usés, on les jette. Point. Quoi? Le maître ne peut pas faire comme il veut, il doit rendre des comptes à Dieu. Le maître des esclaves est soumis lui-même à un maître céleste. Mais c'est la révolution. Vous voyez, dans la maisonnée de Philémon, la réaction des gens, ça bouleverse tout. Et encore pire dans l'Église. Ça bouleverse tout. C'est une révolution. Et cette révolution, une douzaine d'années auparavant, Paul l'avait déjà exprimé, passage bien connu dans les Galates, « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme, unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Du temps de l'Empire romain, les chrétiens l'avaient bien compris. Dans les arènes, ils ont parfois scellé de leur sang l'unité entre esclaves et nobles, entre juifs et grecs. Quel dommage, quelle honte, qu'à certains moments de l'histoire, cela a été oublié. Les conséquences de la traite négrière sont toujours avec nous. La pauvreté de certaines populations, les blessures dans le regard que nous portons les uns sur les autres, des attitudes inacceptables. Et les chrétiens devraient être en première ligne pour que ça change. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme unis à Jésus-Christ. Vous êtes tous un. Quel défi! J'espère que vous avez vraiment envie de mettre cela en pratique. Mais j'aimerais vous lancer un deuxième défi. Les paroles des chants gospel, le bouleversement qu'ont vécu Paul, Philémon, Onésime, l'unité que veut vivre une église comme celle-ci, tout cela relève d'un plus. Tout cela relève de la puissance de l'Évangile. D'une certaine manière, dit la Bible, nous sommes tous des esclaves qui avons besoin de régulariser notre situation. Et la Bible parle de l'esclavage du péché, d'une sorte d'exclusion que nous choisissons par rapport à Dieu. Nous avons tous besoin d'être libérés de cela. Nous avons tous besoin d'un médiateur qui intervienne en faveur de notre libération. Nous avons tous besoin que quelqu'un vienne payer nos dettes. Et voilà le deuxième défi, le deuxième exemple, le deuxième principe révolutionnaire. C'est en Christ que Saul, le fanatique, est devenu Paul, l'apôtre. C'est en Christ que Philémon est devenu témoin dans sa ville. C'est en Christ qu'Onésime a trouvé une nouvelle identité. C'est en Christ qu'il a trouvé des frères. Et nous, notre rapport à Jésus-Christ? Jésus a dit, si c'est le Fils, c'est-à-dire si c'est Jésus-Christ qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libre. Sans Christ, vous avez une belle morale, et à ce titre, j'espère que tous peuvent profiter de ce que nous avons médité ce matin. C'est déjà bien. Mais en Christ, nous avons la libération, la réconciliation et la puissance de l'Esprit pour changer. Et c'est pour cela qu'on chante le gospel. Mon dernier mot, si nous le chantons, vivons-le.